Radio VSM, émission spéciale municipale 2020.
Sur Radio VFM, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous pour notre débat du second tour consacré au municipal 2020 à Vire-Normandie. Ce second tour, il aura lieu, on vous le rappelle, dimanche prochain. Il concerne 59 communes au total dans le département du Calvados. 59 communes, dont Vire-Normandie. Cette commune nouvelle créée en 2016 et qui réunit les communes déléguées de Vire, Maison-Celle-la-Jourde, en Trutmer-le-Grand, Trutmer-le-Petit, Saint-Germain-de-Talvande, Vaudrier, Roulour et Coulons. Chaque liste, on vous le rappelle, est composée de 47 candidats. On rappelle également qu'il y avait 5 listes en lice au premier tour et 3 se sont qualifiées pour le second tour. Arrivé en tête au premier tour avec 44,96% des voix, le maire sortant Marc-André Sabater qui conduit la liste à Politique Ensemble pour Vire-Normandie. Bonsoir Marc-André Sabater.
Bonsoir Christophe.
Arrivé en deuxième position au premier tour avec 33,69% des suffrages exprimés, Pascal Martin qui mène la liste également à Politique Vire-Normandie. Ensemble c'est mieux. Bonsoir Pascal Martin.
Bonsoir messieurs dames, bonsoir Christophe.
Et puis également qualifié pour ce deuxième tour, la liste Vire-Normandie écologique et solidaire, créditée de 11,69% des voix, une liste que conduit Cindy Baudron qui est également avec nous ce soir. Bonsoir Cindy.
Bonsoir.
Ont donc été éliminées, je le rappelle, à l'issue du premier tour, la liste Rassemblement Virois que menait le conseiller régional Rassemblement National, Jean-Philippe Roy, crédité de 6,85% des voix, ainsi que la liste Vire-Normandie, une passion commune que conduisait Jérémy Folly et qui avait, elle, recueilli 2,69% des suffrages. Ce second tour offre donc une triangulaire dans la capitale du Bocage et ce soir, vous l'avez compris, eh bien les trois candidats sont présents dans nos studios pour débattre pendant un peu plus d'une heure en direct sur Radio VFM et sur vfmradio.fr, un débat que vous pouvez également retrouver dès ce soir en podcast sur notre site internet. Le premier thème évoqué ce soir, il concerne cette campagne, ou plutôt le caractère très spécial de cette campagne électorale. Le tirage au sort effectué en amont de ce débat a choisi Marc-André Sabater pour ouvrir le débat. Je précise dès maintenant que tout à l'heure, ce sera Cindy Baudron qui conclura. Alors ce deuxième tour, Marc-André Sabater, il intervient un peu plus de 3 mois après le premier. Il donne lieu à une campagne, on le disait, évidemment très spéciale. Pas de meeting, pas de porte-à-porte. Comment vous la vivez, vous, Marc-André Sabater, cette campagne du second tour?
C'est vrai que c'est une campagne assez particulière. Il y a 3 mois entre le premier et le deuxième tour. Il y a toujours la crise. Et c'est vrai que pour moi qui suis maire en place et qui est avec mon équipe, avec l'ensemble des élus, les personnels de la collectivité à gérer la crise, c'est vrai que c'est un petit peu particulier. Alors pendant, on va dire, 2 mois et demi, nous nous sommes consacrés intégralement à la gestion de la crise. Et là, je dois partager mon temps entre une campagne électorale un petit peu particulière et aussi, toujours, bien sûr, la gestion de la crise. J'ai, par exemple, demain matin, une cellule communale de crise. Donc, vous voyez qu'on est... J'essaie de concilier à la fois, en tant que maire, la gestion de la crise et une campagne électorale, certes, assez particulière, qui est essentiellement, d'ailleurs, alors avec les documents classiques de communication papier, mais aussi tournée sur les réseaux sociaux. Alors, ça touche pas tout le monde. Voilà, ça a des bons côtés, des moins bons côtés. On voit des choses... un peu bizarre, plus ou moins agréable sur les réseaux sociaux, mais bon, chacun utilise les méthodes qu'il souhaite. Mais bon, voilà, c'est cette campagne est effectivement assez particulière.
Cindy Baudron, comment vous la vivez avec la liste écologique et solidaire? Vous êtes resté relativement discret durant cette longue période d'entre-deux tours?
Oui, alors nous étions défavorables à l'organisation du second tour au mois de juin. On aurait voulu un report du scrutin à l'automne. Donc pour nous, l'organisation de cette campagne du scrutin de manière générale est profondément déraisonnable, antidémocratique et inégalitaire. Déraisonnable, on le voit avec les derniers indicateurs. Il y a eu 7 clusters identifiés en peu de temps en Normandie, 3 écoles du Calvados qui fermaient lundi, un indicateur qui est le R0 qui est supérieur au seuil d'alerte, des pays comme l'Allemagne qui reconfine pour l'Allemagne ouest du pays. Donc le principe de précaution devait prévaloir. L'actualité nous donne malheureusement raison. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous avions proposé cette liste de cohabitation avec une répartition à la proportionnelle du nombre de sièges. D'autre part, nous pensons que cette campagne, elle est antidémocratique, et c'est d'ailleurs les craintes qu'on avait dès le départ, et ça se confirme actuellement, puisqu'on n'a pas pris en compte l'opinion majoritaire lors du premier tour, puisqu'il y avait une abstention de 57%, qu'il fallait évidemment prendre en compte. ce délai inconcevable entre le premier tour et le second tour, et évidemment une impossibilité de mener la campagne compte tenu du risque sanitaire, parce qu'on n'a pas pu se réunir, hein, ne serait-ce que les équipes de campagne, il n'y avait pas de salle municipale disponible. Effectivement, on a eu des indications aussi très tardives sur l'organisation, enfin les nouvelles modalités d'organisation de la campagne. Pas de distribution de documents possible. Alors nous, on s'était engagé dès le début en fait hein, de la campagne. Quand on a appris hein, le déroulement, le maintien du second tour le 28 juin, on s'était engagé à ne faire une campagne que numérique et on s'est tenu à cet engagement-là. Je constate que les deux autres candidats ont quand même distribué des documents par le boitage. Donc voilà, donc on s'est vraiment contenté de faire cette campagne numérique avec nos petits moyens sur notre page Facebook et notre site internet. Et on a utilisé également les documents de propagande, affiches électorales et circulaires électorales. Et enfin, je finirai aussi sur l'aspect inégalitaire et discriminant de cette campagne, puisqu'effectivement, le maire sortant a bénéficié hein, d'une fenêtre médiatique. À voir à instrumentaliser la crise sanitaire, notamment hein, là dans un dernier document sur l'organisation de l'accueil des enfants de personnel prioritaire. Ce n'est pas le maire qui l'a organisé, mais ce sont bien les directeurs et les directrices d'école, hein, notamment avec le service d'enseignement sur le pays scolaire.
C'est pas comment fonctionne une collectivité, il faut regarder. Hein. Tout ça est décidé en cellule communale de crise, pilotée par le maire.
Ce sont les directeurs et les directrices qui ont organisé le planning des enseignants.
Ah oui, je suis désolé, avec les services de la collectivité, heureusement.
On a travaillé et enfin, ensemble. Je souhaite finir sur l'aspect inégalitaire, puisqu'effectivement, nous avons des moyens financiers qui sont limités. Hein. Nous avons une campagne assez sobre et économe, puisque effectivement, même si les dépenses de campagne sont remboursées, c'est de l'argent public. Donc à ce jour, hein, on a un total de dépenses de près de 5 000 euros avec les documents de propagande officielle. Donc du coup, voilà, on est toutefois assez fiers de ce qu'on a réussi à faire avec le peu de moyens de financiers qu'on avait et le peu de fenêtres médiatiques qu'on avait. Mais pour répondre aussi à votre première question, Monsieur Lécuyer, on a été discret, mais on a été aussi acteur dans la gestion de cette crise sanitaire, puisque comme disait Monsieur André tout à l'heure, c'est bien un ensemble d'acteurs qui a contribué à faire qu'on a répondu aux besoins de la population. Les membres de la liste se sont mobilisés en tant que bénévoles, en tant qu'élus pour la gestion de cette crise.
Et pour répondre également effectivement à cet appel à volontariat qui avait été lancé donc par la collectivité. Pascal Martin, à l'instar de Cindy Baudron, vous aussi, vous avez dénoncé la surmédiatisation de Marc-André Sabater durant cette crise sanitaire. Comment vous l'avez vécu?
Bah écoutez, je partage beaucoup de choses qui viennent d'être dites par Cindy Baudron. Moi, je veux dire, c'est une campagne spéciale. Elle est tout d'abord inégalitaire, elle est insolite. C'est une campagne inégalitaire parce que, effectivement, c'est une campagne qui a été faite sur un mois. On a été averti au dernier moment. On ne savait pas ce que l'on devait faire. On ne savait pas quels étaient les modes d'action. Effectivement, on parlait du boitage, on l'a su très tardivement. On a parlé du deuxième panneau qu'on a su vraiment très tardivement l'utilisation d'un deuxième panneau, mais surtout, effectivement, je dénonce également, pas le travail qui a été fait, monsieur le maire, pas le travail qui a été fait, c'est ce que je vous l'ai dit hier, c'est ni plus ni moins la stricte application des directives gouvernementales, mais c'est la mise en scène. Et effectivement, on a eu un maire exposé, très exposé, jusqu'à le dire, trop exposé, outrageusement exposé, pendant que nous étions en retrait. Bien sûr, moi j'étais sur le front de la Covid-19, puisqu'on travaillait, je sculptais tous les jours et on ne savait pas, on avait un travail à risque et on essayait de s'exprimer. Très difficile de s'exprimer puisque Vire FM me passait des articles, mais le reste non, ce qui fait qu'on était inexistant, tenu en retrait pendant 3 mois. Et là, on a eu évidemment face à nous un maire qui était très exposé et qui sait très bien le faire, on le sait bien. Donc, c'est une campagne, bien évidemment, inégalitaire, mais nous sommes de bons candidats, j'allais dire, on est toujours debout et on a décidé de participer à ce second tour, et je dis aux gens, allez voter, même si ce que dit Madame Baudron, c'est vrai, il y a une récidive aujourd'hui, mais en allant voter avec des masques et du gel hydroalcoolique, il n'y a aucun risque. Mais, en plus, cette campagne, je dois dire, a eu des côtés, même si on aime bien aller au contact des gens, faire des réunions publiques, on ne pouvait plus le faire. Une campagne un peu insolite où on déambule dans les rues, on rencontre des gens, on a fait une campagne dans les médias, qui était moins importante les fois d'avant, et une campagne sur les réseaux sociaux, sur les sites, sur les vidéos. C'est peut-être ce que vous disiez tout à l'heure, monsieur Andrew. J'ai un tas de jeunes dans ma liste qui sont assez formidables, qui ont de l'imagination. Bon, c'est un peu parfois borderline, je les retiens un petit peu, mais c'est assez marrant, c'est dynamique. Et moi, je trouve qu'on a découvert voilà, une autre façon de faire campagne. Nous sommes présents.
Ça veut dire que quand Marc-André Sabater dit qu'il se passe des choses un peu spéciales sur les réseaux sociaux, vous le prenez un petit peu pour vous ?
J'imagine, parce que j'ai vu que des travaux ont été faits suite à l'annonce de trop de petites choses que les jeunes avaient marqué sur nos réseaux sociaux, et les travaux sont faits. Alors on s'est dit, ouf, on fait quand même quelque chose d'utile dans cette campagne.
Bien, voilà pour Oui, Marc-André Sabater, vous voulez répondre
sur cette question, il y a des choses que je ne peux pas laisser dire. Bon, je respecte le point de vue de mes...
Vous n'avez pas été surexposé ? Enfin, vous n'aviez pas cette volonté, en tout cas.
J'ai déjà dit à multiples reprises, regardez les 35 000 maires de France, qu'ils soient d'ailleurs élus ou à repasser devant les électeurs, ils ont tous fait la même chose. Ils ont travaillé, ils ont mis en place, certes, les dispositifs gouvernementaux, mais ils ont aussi mis en place leurs propres actions. Je ne peux pas laisser dire que je ne me suis contenté. Alors, enfin, je ne sais pas, il y avait 20 ou 25 personnes en cellule communale de crise. Je ne peux pas laisser dire que nous sommes contentés de mettre en place les décisions gouvernementales. Quand nous mettons en place un transport à la demande permettre à des personnes âgées d'aller à leurs rendez-vous médicaux, transport à la demande gratuit sur l'ensemble de Vire-Normandie, quand on fait un portage de course, on n'a aucune directive gouvernementale, on n'applique pas les décisions gouvernementales. C'est une
bien sûr,
décision.
Mais ce sont les élus d'autres élus que vous qui ont porté ces projets-là. Certains, pourquoi ne pas les laisser communiquer
et la façon de le dire.
Alors attendez, je peux peut-être m'exprimer. Moi, je ne vais pas pointer telle ou telle action. Je dis globalement, il ne faut pas dire des contre-vérités. Quand nous avons bien sûr, et c'est notre responsabilité, quand on ne peut plus accueillir le public, quand on doit fermer les équipements publics, eh ben on le fait, on s'organise en interne pour le faire. Mais quand on réfléchit collectivement à la mise en place d'actions de solidarité sur notre territoire ou d'actions pour accompagner le monde économique, tout ça, c'est discuté en cellule de crise par l'ensemble des acteurs et c'est décidé, que ce soit au niveau communal ou intercommunal. Ça n'a rien à voir avec des décisions gouvernementales. Et c'est la force, d'ailleurs, dans cette crise, je dirais, il y a malgré tout quelques aspects positifs. Et je dois dire que un des aspects positifs, c'est la coopération entre, je dirais, de la sphère publique dans son ensemble, que ce soit l'État ou que ce soit les collectivités locales. On a bien travaillé ensemble. Moi, j'ai réuni toutes les semaines, le lundi matin, une cellule de crise, je dirais, avec l'ensemble des acteurs institutionnels, représentants de l'État,
parce que le temps de parole,
hôpital, etc., pour faire le point sur la situation sanitaire. Toutes les semaines, le mercredi après-midi, j'ai réuni toutes les semaines aussi les représentants du monde économique.
C'est peut-être pas à ça qu'ils font référence, les deux autres candidats, Marc-André Sabater. C'est peut-être à l'exposition médiatique.
Personne ne le sait, ça n'a pas été dit médiatiquement. Ça fait partie du travail et c'est une décision de ma part, de la collectivité. C'est pas l'État qui nous a demandé de faire ça. Je crois pas que ça
soit.
On n'a pas eu mon temps de parole hier lors de l'émission ailleurs. Hier,
non, le débat ne fait que commencer.
J'espère pouvoir l'avoir aujourd'hui.
Qu'est-ce que vous lui reprochez à Marc-André Sabater pour faire simple sur cette période ?
Parce qu'il a fait son boulot de maire. Et de faire savoir, vous prenez le maire de Lisieux, allez voir ce qui s'est passé à Lisieux. Le maire de Lisieux n'était pas plus que ça en avant des choses. Quand on voit par exemple monsieur le préfet qui vient de façon borderline, en limite de temps, pour voir si le marché se passe bien, alors qu'il y a d'autres marchés dans des villes où il y a
des problèmes. Est-ce que c'est la faute de Marc-André Sabater ?
Je veux dire, non, mais je veux dire par là que c'est quand même des mises en scène qui sont quand même. Non, mais je suis d'accord, mais ce sont quand même des choses qui sont choquantes. Je trouve que c'est choquant.
Ah oui, alors quand je reçois un appel du préfet me demandant s'il peut venir à Vire, parce qu'on est les premiers à avoir réouvert un marché dans le département du Calvados.
Il y a des marchés qui n'ont pas fermé.
On est les premiers à avoir ouvert un marché. Ça aussi, c'est une décision des élus, c'est pas une décision gouvernementale. Que le préfet vienne voir comment ça se passe, moi, j'en suis honoré. Je vais lui dire non, je peux pas. Franchement,
double campagne, moi je dis sérieux. Double campagne, voilà, les inégalités des choses.
Cindy Baudron, juste pour finir sur ce point, ce que vous lui reprochez, c'est d'avoir surjoué en fait à Marc-André Sabater, d'en avoir un petit peu rajouté.
Alors pas forcément rajouté, mais c'est-à-dire que encore une fois, c'est un ensemble d'élus, c'est un ensemble d'acteurs qui ont contribué à gérer cette crise. Et je pense qu'il aurait fallu donner la parole aux élus qui ont porté certaines actions, certains dispositifs, plutôt que de s'approprier les choses. Et d'autre part, oui, il y a eu des actions quand même... très médiatisé. Je pensais au marché, je l'ai évoqué hier aussi, mais la distribution de muguet, quand M. André dit qu'il a été très sobre dans sa communication et qu'il a mis de côté sa campagne pendant la gestion de crise, je ne suis pas tout à fait d'accord. Il y a des choses qui n'étaient pas de l'ordre de l'intérêt collectif, mais bien, à visée électoraliste.
On va en venir maintenant à vos résultats respectifs de ce premier tour. Le contexte spécial, évidemment, de ce premier tour, on l'a évoqué tout à l'heure, avec l'abstention importante à Vire-Normandie comme ailleurs, mais aussi le report des voix des les deux candidats qui ont été éliminés, on le disait tout à l'heure, Jean-Philippe Roy et Jérémy Folli. Tout cela, ça vous inspire quoi pour ce deuxième tour, Cindy Baudron? Est-ce que vous estimez que finalement la pause liée au Covid-19 peut tout simplement rebattre les cartes?
Alors, déjà sur la question initiale, sur le report des voix, là on est sur une analyse très très quantitative du nombre de voix que je refuse un petit peu. On peut analyser effectivement la participation au premier tour, l'abstention au premier tour. Hein, on a un différentiel, on a une abstention, si on regarde sur les précédents scrutins, de l'ordre de 30%. Là on était à 57%, ça veut dire que plus d'un quart des Virois ont renoncé à voter à cause du contexte sanitaire notamment. Donc ça représente à peu près 3400 voix. On peut regarder aussi le nombre de voix recueillies par chacun des candidats. La liste vient Normandie écologique et solidaire comprise. Marc-André Sabater a recueilli 2415 voix. La liste de Pascal Martin, donc ça représente seulement 18% des inscrits. Pascal Martin, 13,85% des inscrits. Et vient Normandie écologique et solidaire, 4,79% des inscrits. Donc cette analyse, elle est intéressante uniquement si on veut qualifier, quantifier le renoncement au vote des électeurs en lien avec le contexte sanitaire et agir ensuite en responsabilité. Donc c'est pour ça que nous, on avait proposé d'ailleurs une liste de cohabitation au regard de ces indicateurs-là.
Une liste de cohabitation qui aurait placé quand même l'équipe de Marc-André Sabater arrivée en tête, minoritaire face à vous et
minoritaire, la liste de Pascal Martin. Mais à la proportionnelle par rapport au résultat du premier tour, hein, complètement proportionnel avec effectivement...
C'était acceptable, vous pensez qu'il aurait dû ou qu'il aurait pu accepter cette proposition
Marc-André Sabater ? C'est-à-dire que le principe de précaution aurait dû primer à ce moment-là, en l'absence de certitude sur l'évolution de l'épidémie. Effectivement, si on est, comme on le dit, préoccupé par la santé de nos concitoyens, on peut effectivement mettre de côté, là encore, ses ambitions électoralistes.
Vous accusez 1787 voix de retard sur Marc-André Sabater. Qu'est-ce que vous pouvez espérer avec cette liste, Cindy Baudron, sur le second tour?
Alors, pour finir du coup sur mon analyse, encore une fois, il ne s'agit pas d'aller chercher des voix pour aller chercher des voix. Donner l'illusion aux électeurs qu'on s'intéresse à eux uniquement pour leur arracher des voix. On a été particulièrement étonnés, voire choqués, que les deux candidats offrent des services directement aux électeurs pour les véhiculer dans les bureaux de vote. Je trouve ça tout à fait immoral. L'anonymat du vote n'est plus garanti dans ces conditions-là. Le choix de la liste Vient Normandie écologique et solidaire, c'est un vote d'adhésion à un projet qui se démarque vraiment des deux autres programmes par son actualité, par ses propositions innovantes. Donc on ne va pas à la course aux voix, on n'est pas en train d'aller chercher les électeurs pour qu'ils votent pour nous. C'est vraiment un choix de conviction et d'adhésion. Mais quelle que soit la liste qui l'emportera, on peut être d'accord, je pense, ce soir pour dire qu'elle ne sera pas forcément légitime, le vainqueur ne sera pas forcément légitime, compte tenu des résultats du premier tour, de l'abstention très forte du premier tour et de l'abstention prévisible du second tour.
Pascal Martin, vous accusez-vous à peu près 600 voix de retard sur Marc-André Sabater à l'issue de ce premier tour. Vous en pensez quoi de tout ça? Comment est-ce que vous le jugez, votre réserve de voix?
Déjà, l'abstention au premier tour a été très importante. Effectivement, donc les résultats, on peut douter, j'allais dire, de la réalité des résultats. Il y a deux autres listes qui ne se sont pas qualifiées. Je n'ai eu aucun contact. Hier soir, voilà, si, j'ai parlé au téléphone avec Jérémy Folli. Voilà, mais vraiment comme ça, pas pour dire soutiens-moi. Non, c'était voilà, juste échanger sur des idées. Voilà, j'ai répondu oui à la proposition de Madame Cindy Baudron parce que je trouvais effectivement que ce premier tour était raté. Dans les conditions qu'il s'est déroulé, c'était raté. Donc, avec un deuxième tour qui risquait de l'être également à cause de la pandémie, j'ai dit oui, on y va. Après tout, pourquoi pas? C'est bien. Chacun garde ses idées et puis après, voilà, on vivra ce mandat en se mettant d'accord. Il y a des points d'accord que j'ai sur la santé avec Cindy Baudron, avec la mobilité, avec M. Andreu sur la police, etc. On y reviendra. On avait des points, donc il était possible de trouver des majorités et de fonctionner comme ça. J'ai donc estimé que, voilà, puisque c'était quelque chose qui était parti dans le tendancieux, j'ai dit ok, j'ai consulté la liste. La liste avait une majorité et j'ai dit d'accord, on fait, je suis d'accord avec votre proposition. Mais bon, il en a pas été ainsi, mais après tout, c'était une solution.
Vous auriez pu vous retrouver maire?
C'est même pas pour ça.
En vous mettant d'accord avec la liste de Cindy Baudron, vous pouviez
Cindy
vous retrouver
Baudron disait qu'il y a une idée derrière ça, chacun gardait ses idées. Et puis on y allait, puisque de toute façon, on cristallisait le résultat du premier tour. Alors quand on voit, y a-t-il des réserves? Je vais parler des voix des gens qui ne sont pas qualifiés.
C'est un appel que vous lancez d'ailleurs aux électeurs de Jérémy Folli. Vous faisiez allusion
comme
à Jérémy
Folli
tout à l'heure.
Là, évidemment, je comprends sur votre le fait de communiquer avec les gens. Mais non, les gens, voilà, on appelle évidemment à aller voter. Et s'ils votent pour nous, c'est une très bonne chose. Mais voilà, il y a, j'allais dire, énormément de personnes qui ne sont pas allées voter. Et depuis 3 mois, on n'arrête pas de me le dire. Et je sais que cette fois-ci, les gens vont y aller. Parce que ils ont été rassurés par le port du masque. J'ai pu leur expliquer les choses. Ils ne risquent rien. Ce n'est pas les meilleures conditions, on est d'accord. Mais je sais qu'il y a une grosse réserve de voix. Ok, on aurait voulu faire mieux encore, on aurait préféré être devant. Mais voilà, pour nous, 600 voix, 7500 électeurs qui ne sont pas allés voter, c'est quelque chose qui est tout à fait possible à réaliser. D'ailleurs, M. Andreu le dit sur ses papiers de campagne, ce n'est pas gagné, il le dit lui-même.
Donc, je pense que c'est une bonne chose. Les 600 voix de retard, Pascal Martin, les 600 voix de retard que vous accusez, c'est plus que les scores de Jérémy Folli et Jean-Philippe Roy réunis. Ça veut bien dire qu'il va falloir aller les chercher chez les abstentionnistes.
Mais il y a une grosse mobilisation à faire étant donné l'abstention du premier tour.
Marc-André Sabater, alors pourquoi vous n'avez pas accepté regroupement des listes?
Je note, au vu de ce que j'entends, que les 30 000 maires qui ont été élus aujourd'hui ne sont pas légitimes. Parce que les 30 000 maires qui ont été élus au premier tour, beaucoup l'ont été avec beaucoup moins que 18% de la population. Donc aucun n'est légitime aujourd'hui. Je pense qu'ils apprécieront d'entendre ça. Mais bon, voilà. Je ne vais pas m'exprimer sur les reports de voix. Moi, chacun fait ce qu'il veut. Je ne vais pas aller à la pêche à un tel ou un tel.
Vous ne lancez pas un appel aux 145 électeurs de Jérémy Folli?
Je lance un appel. Je l'ai déjà fait aux abstentionnistes. Parce que, alors bien évidemment, s'ils votent pour notre liste, j'en serais très heureux. Mais c'est surtout, d'un point de vue démocratique, c'est vrai, c'est quand même beaucoup mieux quand les gens viennent voter. C'est un droit. Donc, je comprends qu'il peut y avoir, il y a la crise sanitaire qui a effectivement au premier tour été un véritable frein pour beaucoup de nos concitoyens. Les conditions sanitaires survivent, en tout cas, il y a des clusters en Normandie. Je crois qu'il ne faut pas faire peur aux gens, c'est ça le problème. Il ne faut pas non plus être dans un discours qui va les dissuader de venir voter. C'est quand même ce que j'ai entendu. Il faut leur dire, venez voter, vous voterez dans des conditions de sécurité maximale. Il y a eu aujourd'hui une réunion à la mairie sur les conditions de déroulement du vote dans les bureaux de vote. Les gens pourront venir en voter en toute sécurité. Donc il ne faut pas leur faire peur. Ça ne sert à rien. Au contraire, il faut leur dire, venez voter pour qui vous voulez, mais venez voter, exercez votre droit.